Alors, pendant le temps de louange, j'avais une pensée qui était intéressante, c'est que notre Église devait rentrer dans une onction prophétique. Et l'onction prophétique, c'est quelque chose où on vient prendre la pensée de Dieu, la pensée du Saint-Esprit, et non seulement on la reçoit, mais on la matérialise, on la concrétise sur la terre. Et la première concrétisation, c'est la proclamation. Et après la proclamation, eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle la mise en pratique. Et j'avais le sentiment que Dieu nous donnait une parole pour la ville, pour la région, qu'il fallait qu'on proclame, et ça allait même au-delà de la région, ça allait sur la terre entière. Et c'est une parole qu'on trouve dans le livre de Job, et qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Amen. J'aimerais qu'on se lève et puis qu'on proclame ça. Merci, super. Qu'on proclame ça pour nos voisins, pour la ville, pour la région, pour notre président, pour notre premier ministre, pour tous les autres qui ont besoin. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont jamais vu de leurs yeux. Jésus leur a jamais été révélé. Maintenant, mon œil te voit, ça veut dire la révélation de Dieu descend dans ma vie. Et on va appeler ça, on va prophétiser ça, que ce soit une année où non seulement les gens ont entendu, mais qu'il y ait quelque chose qui se concrétise dans leur cœur, que leurs yeux s'ouvrent, que le collyre du Saint-Esprit descende, que leur esprit s'ouvre et qu'ils puissent dire « Maintenant, mon œil te voit et je te choisis. » Amen. Alors, on va proclamer ça sur vous pensez à vos voisins, vous pensez à votre quartier, vous pensez à votre travail, à vos collègues de travail, vous pensez au maire, vous pensez aux adjoints au maire, vous pensez au préfet, vous pensez à monsieur Macron, à monsieur Bayrou, à ceux qui ont le plus besoin, madame Le Pen, monsieur Merduchon, tous les autres, quoi. Seigneur, nous proclamons, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Encore une fois, proclamez-le avec force. Alors, il faut que ça dépasse les murs de cette église. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Nous le proclamons, nous le croyons, et nous voulons le vivre cette année. Amen. Amen. En faisant ça, on appelle le retour du Seigneur. Comme on a pris la Sainte Cène, on appelle le retour du Seigneur. Pouvez-vous asseoir. Alors, vous savez, l'onction du Saint-Esprit, l'onction prophétique, c'est pas un truc qui passe comme un poisson et puis qui s'en va. L'onction prophétique, il faut travailler avec. Ça veut dire qu'on lâche pas tant qu'on n'a pas vu. On lâche pas tant qu'on n'a pas concrétisé. On lâche pas pour nos voisins, on lâche pas pour le maire, on lâche pas pour le président, on lâche pas pour le gouvernement, on lâche pas pour la nation, on lâche pas pour le continent, on lâche pas pour la terre. Jésus n'a pas lâché. Il règne sur le trône. L'agneau immolé règne sur le trône. Amen. Et nous voulons que ce trône soit visible dans le cœur des nations. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit attentif à ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Et j'ai entendu plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, pendant ce temps de vacances et avant ce temps de vacances, vraiment, il faut qu'on vive des temps de communion. Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on s'apprécie. Il faut qu'on sache un peu quelles sont nos qualités. Et puis, quels sont nos petits défauts, hein? Alors, c'est vrai qu'on aime mieux faire connaître ses qualités que ses petits défauts. Mais justement, si on veut rentrer dans une fraternité, dans une communion spirituelle, il faut qu'on arrête de se cacher et qu'on se rencontre, qu'on vive pour la gloire de Dieu. Pourquoi ? Pour avancer, grandir dans le principe de vie du royaume de Dieu ensemble. On ne veut pas jouer à paraître être une église. On désire ardemment vivre cette dimension de Dieu ensemble pour impacter la ville, la région et le monde. Vous savez, il y a eu un grand réveil à Toronto. Vous imaginez Toronto, grande cité canadienne, voilà, une méga church. Ben non, le réveil, il est venu dans une église où il y avait à peu près 30 membres. 30, une trentaine, pas plus. Et ça a investi le monde entier. Donc on ne va pas se compter. Mais on va dire que rien n'empêche Dieu de secouer la terre au moyen d'une trentaine de personnes que d'un grand nombre. Et vous ne pouvez pas savoir l'impact que nous avons ici en tant qu'Église, amour, foi, espérance sur le monde, si on accepte de relever le défi. Et il y a un défi devant nous. Et ce défi, vraiment, c'est eh bien, que le royaume de Dieu soit manifesté sur la terre concrètement au travers de notre assemblée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais prendre soin de chacun d'entre vous, mais vous allez prendre soin aussi de moi. Ça veut dire que vous allez prendre soin les uns des autres. Si vous voulez quelque chose de plus cette année, si vous avez faim et soif de voir des choses changer, eh bien, il faut aller piller les richesses qui sont dans le ciel et les amener sur la terre. Et pour ça, il y a un seul chemin pour accéder au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est
Jésus.
Amen. Donc, il faut entretenir la communion avec Jésus. Et j'ai bien aimé quand, Anise qui a prié, que les enfants commencent à se réveiller en appelant dans chacune de leurs journées Jésus. Et nous, on a besoin de se réveiller aussi en appelant Jésus sur notre journée. Chaque jour, c'est Dieu qui le crée. Chaque jour, il nous le donne. C'est un cadeau. Et c'est pour qu'on remplisse cette journée de qui ? De la présence de Jésus. Il ne veut pas qu'on reste seul, Jésus. Et c'est pour ça, il dit, quel est le plus grand commandement ? Il interroge un jour un érudit, il dit, quel est le premier commandement ? Et l'érudit répond, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La pensée de Dieu, c'est la communion fraternelle. Il ne veut pas qu'on vive notre vie chrétienne égoïstement pour nous-mêmes, tout seul. Il veut qu'on vive la communion spirituelle les uns avec les autres. C'est là où il va développer la puissance. Si on prend soin de Damien, alléluia, moi j'aime bien Damien. Hier je l'ai rencontré. Il était coincé avec la carte. Et vous savez, vous croyez qu'on ne vous voit pas, mais Marie-André, super pasteur, elle a dit, mais j'ai vu ta femme, elle est passée là. Elle dit, oui, elle est venue me secourir pour payer les courses. La communion fraternelle. Avant qu'il ait dit ça, j'ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on t'aide pour payer les courses ? Il dit, non, ça y est, c'est réglé. J'ai une femme, j'ai une aide semblable à moi. Amen. C'est ça la communion fraternelle. C'est qu'on ne reste pas tout seul dans notre coin. C'est pour que les enfants ne restent pas tout seuls la semaine à l'école. C'est pour qu'ils se retrouvent ensemble, qu'ils voient qu'il y a d'autres enfants qui sont chrétiens. c'est pour qu'ils s'invitent les jours d'anniversaire, les jours de fête, pour qu'ils jouent ensemble, qu'ils fassent une équipe de football ensemble, qu'ils fassent des activités ensemble, que nous aussi, on fasse l'effort. C'est pour que Carole, elle ne reste pas toute seule là-bas dans la campagne éloignée où elle n'a pas encore acheté sa super Ferrari pour venir nous retrouver. Et c'est qu'on commence à prier pour qu'elle ait la facilité pour reprendre le volant, pour qu'elle trouve la bonne voiture qui lui va bien, qu'elle ait la liberté. Mais en attendant, il faut aller la voir. Et puis, il faut aussi l'inviter à la maison pour la connaître. Parce que quand je fais ça, je grandis dans la puissance du royaume d'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'exerce la communion fraternelle. Alors, on a plusieurs défis à relever ensemble. On le connaît dans les Actes des Apôtres, c'est quelque chose de fort. Eh bien, c'est quoi ? C'est être assidu aux enseignements des apôtres. Et je dirais être assidu aux enseignements de la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est rompre et partager le pain. Et rompre et partager le pain, on l'a fait aujourd'hui, et ça a tout son sens. Et on ne le fait pas tout seul, on le fait ensemble. Et quand tu invites quelqu'un, un autre chrétien dans ta maison, tu peux prendre la Sainte Cène, c'est bon. Commencer le repas par prendre le pain et le vin. Et dire, Seigneur, on te bénit, merci pour ton corps, merci pour ton sang. Amen. Et si vous avez des bobos dans votre couple, si vous avez des disputes, ben pourquoi pas commencer par prendre la Sainte Cène en disant, Seigneur, je veux purifier mon cœur, j'ai peut-être dit des choses qui dépassaient ma pensée, mais je veux prendre le pain et le vin avec ma femme, avec mon mari, et puis vraiment amener quelque chose de ton royaume sur la terre. Vive la communion, rétablir, restaurer la communion. Que personne ici dans l'Église ne soit laissé de côté. Donc, assidu aux enseignements, rompre le pain, partager le pain, le vin, vivre dans une communion véritable les uns avec les autres et entrer dans une dimension de prière fervente. C'est ça que je veux voir cette année. C'est ça que je veux prophétiser sur l'Église. Je veux vraiment aller voir Priscilla et son charmant petit mari, tout petit, pour avoir communion avec eux. Et que personne ne soit mis de côté. Parce qu'il y a une puissance. Je veux grandir dans l'amour. Si je veux grandir dans l'amour, il faut que j'incarne ce que je crois, ce que je vis. Alors, la communion ensemble, on voit la première parole que Dieu dans sa réflexion quand il a créé Adam. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il n'est pas bon que Adam il soit tout seul. Pourquoi ? Parce que Dieu vit la dimension du pluriel, de la communion. Il a déjà une communion avec son Fils, avec le Saint-Esprit, avec l'homme, mais il se rend compte que l'homme tout seul, il est cuit. Il est limité, il est rétréci. Il faut que l'homme y vive une communion non seulement avec lui, mais qu'il vive une communion élargie. Et il dit, c'est pour ça que je vais lui faire une aide semblable à lui-même. Amen. Alors, messieurs les maris, vous êtes obligés maintenant, ce matin, de bénir votre femme et de lui dire, non seulement tu es une aide formidable, mais tu es une bénédiction pour ma vie. Mise en pratique. Alors, les célibataires, vous inquiétez pas, votre tour va venir tout à l'heure. Alors, vous dites, c'est un message sur le couple ? Non, c'est raté. C'est un message sur la communion spirituelle. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Parce que Adam, il ne pouvait pas satisfaire à l'exigence de Dieu. Pour réaliser le projet de Dieu, il était incomplet Et Ève, toute seule, de la même manière, elle ne peut pas réaliser l'exigence de Dieu. Elle avait besoin d'Adam. Pourquoi ? Pour rentrer dans la dimension d'une communion. Je ne dis pas d'une supervision, ou d'une soumission, ou d'une domination, mais d'une communion. Et c'est là où on s'est trompé. C'est quand le péché est rentré dans la terre, on a parlé... L'homme domine, la femme se soumet. Et ça a été une des conséquences du péché. Mais dans la création de Dieu, l'homme et la femme sont égaux et ils vivent en harmonie, ils se complètent l'un l'autre, ils sont dans une communion. Et ils sont différents l'un et l'autre parce que justement, ils ont le pouvoir d'apporter à l'autre ce qui lui manque. Ils sont dans la communion et la force est démultipliée. Ils avaient besoin d'être ensemble parce qu'ils réunissaient ensemble toutes les qualités pour investir et réaliser les desseins de Dieu. Ah ! Donc, mesdames, vous pouvez dire à vos maris, « Ah, je suis contente d'être ton épouse parce qu'avec toi, je peux réaliser pleinement le dessein de Dieu. » Vous inquiétez pas pour ceux que le mari ou la femme n'est pas converti, on va s'en occuper aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un chrétien tout seul, il y a un évangéliste qui disait ça, c'est un chrétien de trop. Un chrétien tout seul, c'est un chrétien de trop. Pourquoi? Parce que le chrétien tout seul, il va... soit s'enorgueillir, je suis le fils de Dieu, j'ai la puissance. Ou alors, il va complètement s'écrouler sous le paillasson parce qu'il ne va pas savoir résister aux tentations et il va tomber. Un chrétien, pour tenir ferme, il doit vivre dans la communion avec les autres. Un chrétien tout seul, ça n'existe pas. C'est un chrétien qui rentre dans la dimension de l'amour du Père, donc il va trouver la communion spirituelle avec les autres. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui peuvent penser qu'ils sont tout seuls quand vous êtes dans un pays persécuté, que si vous dites vous êtes chrétien, on vous coupe la gorge ou on vous fait les pires exactions. Mais les chrétiens, même dans les pays persécutés, ils trouvent d'autres chrétiens. Dieu, il permet qu'il y ait des rencontres, des rendez-vous préparés d'avance. Et il y a une communion spirituelle. Et vous savez ce qui se passe? La puissance est libérée. La puissance de Dieu est libérée quand il y a communion spirituelle. On ne doit pas être une proie facile pour le diable parce qu'on reste tout seul. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. La volonté de Dieu, c'est de construire son royaume dans une dimension de partage à plusieurs, de communion, d'intersoumission, d'humilité et d'unité. D'unité. Il y a un alignement. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur. Amen. Même le plus difficile à aimer, tu l'aimes. Et il faut en prendre soin. C'est la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, au verset 17 à 26. Jésus dit, « Père, afin qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Dieu lui-même, il n'est pas dans une dimension d'isolement, mais dans une dimension de communion. Pour en revenir à Adam et Ève, ils sont indissociable, et même si Ève, c'est par elle que le péché est entré dans le monde, quoique Adam avait aussi sa grande part de responsabilité, eh bien, la première chose que Dieu fait, il donne à Ève une clé de sortie, une clé de réhabilitation. Il dit, bien, c'est de ta descendance, du fait que toi tu vas enfanter Ève, que celui, il y a un libérateur qui viendra écraser la tête du serpent. Jésus. Voyez, Dieu, il a dans son cœur, il ne veut pas qu'on reste broyé, même si on a fait des erreurs. Et non, j'ai foi en toi. J'ai confiance en toi. J'ai un plan pour toi. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin, ta voisine, pas ta femme ni ton mari, ce coup-là, ton voisin, ta voisine, qui n'est pas ton mari ou ta femme, et tu lui dis, Dieu, il a vraiment un plan pour toi. Bon, vous avez entendu ça? Dieu, il a un plan pour toi? Alors maintenant, on dit, je reçois. Amen. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a un plan pour moi. Hein? Ça, c'est important. Alors, j'ai plein de trucs, mais je n'aurai pas le temps. Je ne sais pas quelle heure il est, je n'arrive pas à voir. Là. Il est 49. Bon. Je voulais prendre l'exemple dans Luc chapitre 1 de Zacharie et d'Élisabeth. Vous connaissez cette histoire de Zacharie et d'Élisabeth? Je vais demander qui la connaît pas. Tout le monde connaît Luc chapitre 1er. Zacharie était un sacrificateur et un jour où il va au temple, il est choisi par le sort pour aller présenter l'autel des parfums. Et là, dans le temple, dans le lieu très saint, il a une révélation. Et l'ange lui dit, « Eh bien, Zacharie, ta prière a été entendue. Tu vas avoir un fils. » Et Zacharie, il est émerveillé, il est supracontent. Mais il dit, « Moi, je suis déjà avancé en âge, ma femme aussi. » Comment ça peut se faire? Et là, l'ange lui répond, écoute, t'es un peu dur d'oreille, t'es un peu dur de la foi. Moi, je suis l'ange, j'ai été envoyé pour te parler, je te délivre le message de Dieu et tu y crois pas. Donc, le truc pour t'encourager dans la foi, eh bien, tu vas voir ta femme va être enceinte, mais toi, tout le temps de la grossesse, tu pourras plus rien dire. Et pourquoi non, j'ai dit ça? Pourquoi Dieu le punit, le met comme ça, muet? Parce que le message de Dieu derrière ça, c'est arrête de prononcer des paroles d'incrédulité. Ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Est-ce que, et vous savez, 9 mois sans pouvoir parler, ça fait long. Je n'allais pas dire d'une manière mesquine, surtout pour les femmes, mais j'ai quand même dit. 9 mois sans parler, même pour un mec, c'est très très long. Et pourquoi? À chaque fois qu'il voulait ouvrir la parole, la bouche, il s'est rappelé qu'il n'avait pas cru à ce qui lui était annoncé. Et il s'est repenti. Est-ce que le plan de Dieu ne s'est pas réalisé? Eh bien, si sa femme Élisabeth est tombée enceinte, et a conçu un enfant qui venait de son mari, Zacharie. Et cet enfant, il était prédestiné à préparer le chemin de la venue de Jésus. Et vous, les parents, j'ai envie de vous faire un gros bec sur le front et de vous dire, chacun de vos enfants est prédestiné à une œuvre particulière de Dieu. Mais il faut que vous ouvriez la bouche et que vous prophétisiez sur eux et que vous appeliez la destinée de Dieu sur chacun de vos enfants. Ne les laissez pas aux mains du diable. Amenez la parole de Dieu sur eux. Ils ne sont pas convertis, ça ne fait rien. Proclamez dans votre maison les bénédictions de Dieu sur vos enfants. Appelez ces choses-là. C'est quelque chose que vous devez libérer. Vous devez seulement entendre, et puis vous devez proclamer, et puis vous devez incarner. Si vos enfants vous voient vivre une vie de foi, si vos enfants voient l'action de Dieu dans vos vies, ils vont avoir faim et soif de vivre la même chose. Ils vont vouloir, moi je me rappelle, Solène et même Mélodie, et puis je ne sais plus, des filles pour Anise et Rachel, mes souvenirs s'estompent. Mais quand ils étaient à la maternelle, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la cour de récréation? Ils disaient, on va jouer à la réunion de prière. Pourquoi? Parce qu'ils nous voyaient prier. Ils savaient que ça avait une incidence. Et puis Solène, elle était rigolote parce que quand elle allait voir les poineaux, elle disait, on va jouer à la prière. Je vais prier pour toi, Régis, tu vas tomber par terre. Pourquoi? Mais parce qu'elle l'avait vu, elle s'était laissée remplir de cette vision-là. Incarner. C'est important d'incarner. Et vous avez besoin d'entendre ce message parce que vous êtes tous appelés à incarner le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui unissait Zacharie et Élisabeth? Ils avaient un alignement dans la vision de Dieu. Zacharie était sacrificateur, Élisabeth était une fille issue de la tribu de Lévi, une descendante. Et ils étaient dans une même vision. Et si Dieu vous a unis, ce n'est pas par hasard, vous êtes des officiers de l'armée de Dieu. Même vision, même cœur. Il faut simplement le libérer. Il faut libérer l'onction qui est sur votre couple, sur votre famille. Et je dirais, qu'est-ce qui se passait dans Élisabeth et dans Zacharie? Il est dit d'eux que tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Et ils ont reçu la faveur de Dieu. Ils ont été investis d'une mission incroyable. Alors, ça concerne aussi les célibataires. Pourquoi? Parce que les célibataires, quelque part, même s'ils sont incomplets parce qu'ils sont tout seuls, pas trop longtemps, je vois le sourire de Samuel, suivez le sourire de David, où est caché Nicolas? Moi, je prie pour qu'il y ait des mariages dans l'Église. Je suis un pasteur marieur. Amen. Et je veux que vous trouviez la moitié qui vous manque. Mais en attendant de la trouver, et pour ceux qui sont appelés à un célibat, pourquoi pas, ou ceux qui ont un conjoint qui n'est pas converti, ou une conjointe qui n'est pas convertie, il y a une puissance dans la communion fraternelle. La même puissance qui réside entre Adam et Ève. Si vous développez la communion spirituelle avec un frère, avec une sœur, qui est dans la dimension de la prière, s'il y a un alignement de cœur avec lui, avec elle, dans la communion spirituelle avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, la puissance est libérée. Vous croyez que Paul, il est parti en mission tout seul? Non. Paul et Silas, Paul et Barnabas, Paul et Timothée. Il y a eu plein de Paul et, parce qu'ils ne partaient jamais tout seul. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était libérée au travers de cette dimension de communion fraternelle. Et non seulement il allait avec quelqu'un, mais en plus ils étaient envoyés par l'Église. Il y avait l'Église qui était en arrière et qui priait pour eux. Et la puissance de Dieu, elle est libérée au travers de la communion spirituelle. C'est pour ça, si vous êtes seul dans votre marche, dans la famille ou dans le couple, eh bien, vous devez vous attacher à la communion fraternelle dans l'Église. Choisir la personne qui va être, je dirais, un instrument de Dieu pour vous encourager dans la foi. Il y a un bel exemple. D'un couple comme ça, où lui est pas du tout chrétien, et elle est super spirituelle, et lui, il va jusqu'à même signer l'arrêt de mort de sa femme, tellement il est aveugle spirituellement. Et vous savez ce que c'est cette histoire? Voilà, elle avait deviné parce qu'elle connaît l'histoire par cœur. Esther et le roi, comment il s'appelait? Assuérus. Ouais, c'est ça. Amen. Merci. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Esther était toute seule. Le roi Assuérus signe un décret où tous les gens juifs doivent mourir, dont sa femme est juive. Elle se met toute seule à prier? Non. Elle se met en communion avec son tonton, avec son oncle, Mardoché. Et l'oncle Mardoché, il dit « D'accord, on prie, on jeûne ». Et qu'est-ce que fait cette femme, Esther? Elle libère la puissance de Dieu non seulement sur son mari, mais sur le royaume entier. Et tous les Juifs sont sauvés au travers du ministère de la reine Esther, alors qu'elle a un mari qui n'est pas converti. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée vers les gens de son peuple, les gens de sa foi, les gens de son Dieu, l'Éternel des armées. Ce qu'elle connaissait de Dieu, elle l'a reçu, elle l'a proclamé, elle l'a incarné. Elle est rentrée dans la salle du royaume, du roi, elle a risqué sa vie, mais elle n'est pas rentrée toute seule. Elle est rentrée dans la prière et dans le jeûne. Donc on retrouve la communion spirituelle, l'enseignement de la parole et la mise en pratique. Et c'est ce à quoi on est appelés les uns et les autres. Alors je vais essayer de prendre un petit raccourci et conclure. Il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 2, qui dit « La bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, mais il faut la recevoir, et il faut la libérer. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, je n'ai pas seulement entendu parler, maintenant, mon œil te voit. Ça veut dire que j'ai une communion spirituelle avec toi, Seigneur. J'ai la vie avec toi. Et je veux proclamer cette vie. Je veux être comme la reine Esther. Mon mari ou ma femme ne comprend rien, mais je vais amener la bénédiction sur mon mari, sur ma femme, sur mes enfants. Maintenant, je vais commencer à me mettre en route pour recevoir ton esprit de vie, ton esprit prophétique. Je vais m'aligner avec ce que ta parole dit. Je ne veux pas être comme Zacharie, sinon je sais que ma bouche va se fermer. Et vous savez ce qui se passe pour Zacharie, et finir le message de Zacharie, c'est que quand l'enfant naît, tout le monde vient dans la maison de Zacharie et puis de sa femme, et ils disent, comment va s'appeler l'enfant? Eh bien, tout le monde dit, il va s'appeler Zacharie comme son père. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle pouvait parler? Elle dit, non. Un peu comme la femme de Tarzan. Non. Son nom est Jean. Pourquoi? Parce que l'ange avait parlé à Zacharie, il avait dit, ça sera l'enfant qui va naître, ça sera Jean, et c'est lui qui préparera le chemin du Seigneur. Il marchera dans la puissance d'Élie. Et vous savez, c'était pas facile pour elle, parce qu'elle faisait face à la tradition religieuse. L'enfant premier-né devait s'appeler du nom du père, voilà. Elle faisait face à tout un poids de tradition, à tout un poids de foi traditionnelle. Elle dit non, ça ne marche pas comme ça chez nous. Chez nous, ça sera Jean. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris le bouclier, elle a pris l'épée et elle a dit « Je défendrai ce que Dieu m'a dit de faire. » Et à ce moment-là, Zacharie a ouvert enfin la bouche, il a été libéré au travers du ministère de sa femme. Dieu lui a rendu la parole et il a dit « Jean sera son nom ». Voilà. Et après, il s'est mis à prophétiser d'une manière incroyable sur le bébé. Et il a libéré une parole prophétique, non seulement sur son fils, mais sur tout le peuple de Dieu. Et il a dit des paroles extraordinaires. On pourrait en dire quelques-unes, mais on va s'arrêter peut-être sur ça. J'aimerais vous dire, mes amis, qu'il y a un esprit prophétique qui repose ici sur cette église depuis des années et qu'on n'a pas réussi à le libérer. Donc maintenant, il faut qu'on se donne les moyens de libérer la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Si on est d'accord, eh bien l'Esprit de Dieu va nous conduire pour être élagués, pour laisser de côté ce qui doit être mis de côté et pour que nous puissions vivre dans la dimension de la puissance de Dieu. Romains 8 nous dit une chose étonnante, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Et puis un peu plus loin dans Romains 8, il y a « Car ce n'est pas un esprit de servitude que vous avez reçu, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». J'aimerais qu'on se lève maintenant et qu'on finisse dans la prière. Alors, on va faire quelque chose d'un peu différent. Hein ? Vous allez tous venir devant. Et puis, ce n'est pas les pasteurs qui vont vous bénir. Non, c'est fatigant, ça, vous savez. Hein. Tout le temps, les pasteurs qui bénissent et puis les autres qui reçoivent. C'est vous qui allez vous bénir les uns les autres. Amen. Allez, venez devant. Et vous allez prendre le temps de vous bénir les uns les autres. Amen. Parce que vous faites une unité. Parce que vous voulez marcher dans la communion fraternelle. Parce que vous voulez vivre et libérer une nouvelle dimension. Alors maintenant, prenez le temps de vous bénir, de bénir le Seigneur, d'aller vers ceux et celles que vous ne connaissez pas trop. Alors n'allez pas forcément tous sur la même personne qui vient ultra rarissimement, mais allez quand même vers elle. Et puis bénissez-vous maintenant. Prenez le temps de la communion fraternelle. On appelle quelque chose de nouveau dans l'Église. On appelle une relation fraternelle, une bénédiction, une grâce, une puissance, une autorité dans le nom de Jésus. On appelle, Seigneur, l'esprit prophétique. On appelle les desseins de Dieu. On appelle la destinée de Dieu sur les maisons. On appelle la puissance de Dieu. On appelle la gloire de Dieu. On appelle la libération des desseins.